France Inter, franceinter.com.
We concluded that genocide has been committed in Darfur, and that the government of Sudan and the Janjaweed bear responsibility, and that genocide may still be committed.
Ans d'histoire. Un génocide a bien été commis au Darfour, le gouvernement du Soudan et les Janjaweed en sont responsables, et ce génocide n'est sans doute pas terminé. En parlant, on vient de l'entendre, de génocide le 9 septembre 2004, le secrétaire d'État américain Colin Powell révélait la gravité de ce qui s'était passé un an plus tôt, quelque part au cœur de l'Afrique, dans l'indifférence générale. Comme au Rwanda, la communauté internationale n'avait pris conscience que trop tard de ce que certains appelaient un génocide et d'autres un crime de guerre. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, cette tragédie avait déjà fait 200 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés dans une région grande comme la France, mais dont personne ou presque n'avait entendu parler jusqu'en 2004. Même lorsque dans les années 1980, elle avait été victime d'une terrible famine qui allait avoir des conséquences incalculables. TF1, Bruno Mazur, le 10 juin 1985.
La sécheresse fait encore des dégâts considérables en Afrique. Patricia Lemonnière et Tony Bosco viennent de rentrer du Darfour au Soudan, l'une des provinces les plus touchées par la sécheresse. La quasi-totalité des habitants dépend entièrement de l'aide alimentaire pour survivre.
Saïda, avec ses frères et sœurs, est venue chercher ici de quoi manger. Des centaines de mères ont amené à Mawashi leurs enfants. Certaines ont dû marcher plusieurs semaines. Ce camp, c'est le paradis comparé à leur village où il n'y a plus d'eau, plus de vivres. Depuis novembre, les réfugiés ont afflué. Ils sont aujourd'hui plus de 6000. La récolte 84 a été inexistante. La population erre à la recherche de camps comme celui de Mawashi. 3 millions de personnes dépendent ici, dans le Darfour, de l'aide internationale pour leur survie.
Marc Lavergne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien coordinateur de la mission d'experts de l'ONU pour le Darfour et directeur de recherche au CNRS. Et vous, Roland Marchal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au CNRS CERI et vous connaissez tous les deux, bien sûr, cette province du Soudan dont presque personne n'avait entendu parler jusqu'au massacres qui s'y sont produits en 2003, mais pour les comprendre, eh bien, il faut évidemment, comme toujours, les replacer dans leur contexte et dans leur contexte historique, dans l'histoire d'un pays, je le rappelle en deux mots, qui était, on l'a un peu oublié, ou on ne l'a peut-être jamais su, un État indépendant jusqu'en 1916, date à laquelle il a été rattaché au Soudan, lui-même devenu indépendant en 1956. Alors le Darfour, c'est un pays gigantesque, il est à peu près de la même taille que la France, mais totalement enclavé au cœur de l'Afrique, Marc Lavergne.
En effet, c'est la raison pour laquelle il a pu rester indépendant si tard, puisque ni les puissances coloniales françaises ni la puissance britannique n'en voulaient finalement. C'était une région sans ressources et sans grand intérêt. C'était un sultanat qui vivait du trafic caravanier à travers le Sahara en direction de l'Égypte jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, c'est une région qui a été rattachée au Soudan sans que le Soudan, que ce soit le gouvernement colonial, ni le pouvoir indépendant à partir de 1950, ne s'en préoccupe vraiment. Je crois que c'est là la racine du problème. C'est pas tant dans le potentiel économique du Darfour que réside le problème, puisque le Darfour est une région sahélienne relativement privilégiée par rapport à d'autres, dans la mesure où il y a en son centre une chaîne montagneuse très élevée qui s'élève à 3000 mètres, une chaîne volcanique qui reçoit des pluies et qui fait du Darfour un château d'eau finalement. Donc il y a en périphérie des rivières pas tout à fait permanente pour la plupart, mais qui attire une population assez nombreuse. Donc on a aujourd'hui 7 millions d'habitants dans cette région. Et un déséquilibre, vous l'avez mentionné, avec la famine de 1984-85.
On y reviendra. Mais vous évoquez la population, Marc Lavergne. C'est une population... Alors, la population est musulmane. C'est pas du tout un conflit religieux comme celui qui s'est passé au sud du Soudan, dont la population est majoritairement chrétienne. Là, l'ensemble de la population du Darfour est musulmane. Mais en revanche, elle est extrêmement diversifiée, Roland Marchal.
Oui, c'est une population qui est diversifiée. Peut-être pour le comprendre, il faut de nouveau regarder l'écologie de cette région, avec des zones qui sont quasiment désertiques, où le nomadisme, où ce sont les dromadaires qui prévalent quand la vie est possible. Une zone centrale, comme le disait Marc Lavergne, qui est plus riche, où on peut imaginer un certain type d'agriculture. Et puis une zone plus au sud où on a un autre type de culture. On a des cultures toujours d'agriculture, un peu d'agriculture, mais surtout de l'élevage de bovins. Donc évidemment, lié à ces modes de production, vous avez des populations qui sont à la fois diverses d'un point de vue ethnique, évidemment. Hein, c'est sur les grandes routes commerciales. Donc vous avez des populations assez différentes qui cohabitent. Et puis, mais surtout, dont le fondement identitaire est largement lié au système de production dans lequel ils s'inscrivent.
Pour schématiser, au nord, c'est une population plutôt arabe et nomade. Au sud, c'est une population d'origine africaine, avec les fours, d'ailleurs, qui sont à l'origine même du nom du Darfour et qui est plutôt sédentaire, même si il y a des Arabes sédentaires, même si il y a des populations africaines qui sont nomades.
Et il faudrait plutôt dire au nord, plutôt arabe et non-arabe, au sud, au centre, plutôt africain ou non-arabe, dans le sud de Darfour, dans ce qu'on appelle le sud d'Arthur, plutôt arabe.
Alors, une situation démographique, économique, sociale qui a été bouleversée, on l'a entendu dans l'archive qui a précédé, par une sécheresse terrible dans les années 1980, Marc Lavergne.
Sécheresse, je ne sais pas, mais en tout cas crise des ressources alimentaires, déséquilibre qui s'était déjà produit dans les années 70 et qui devenait de plus en plus important dans la mesure où la population augmentait. Elle est passée de 300 000 au début du XXe siècle à 6-7 millions aujourd'hui, donc une multiplication par 20, sans que l'État central n'impulse aucune politique de développement rural, ni même simplement d'infrastructures et de services, c'est-à-dire une absence à peu près générale d'écoles, d'hôpitaux, de moyens de transport, et donc une population abandonnée à elle-même.
Oui, ce que ça a aussi impliqué, si vous voulez, c'est d'abord, on a raison de mettre cette sécheresse en parallèle avec d'autres avant. Il faut aussi signaler qu'après, évidemment, la situation s'est améliorée, mais vous n'avez pas eu de grandes périodes où les pluies ont été importantes pour, si vous voulez, pallier au déficit antérieur. Et de plus, l'impact sur l'économie a été extrêmement important dans la mesure où les nomades ou les pasteurs à la recherche d'eau se sont de plus en plus dirigés vers les zones centrales qui sont plus riches, où l'eau est plus facile d'accès. Et évidemment, tout ça a augmenté de façon considérable à la fois des phénomènes de sédentarisation et également
des tensions
sur le partage des ressources.
Et tout cela dans
et Marc Lavergne a raison de le souligner, c'est pas simplement un problème écologique, c'est le fait que l'administration locale et le pouvoir central, qui ont en général un rôle déterminant pour assurer la paix et régler les contradictions, elles existent, mais elles ne sont pas forcément violentes. Cette administration locale et cette administration centrale, de façon générique, n'ont absolument rien fait pour, rendre plus facile la cohabitation de ces différents groupes.
Oui, elle ignore le Darfour, n'y fait aucun investissement, si bien ne se préoccupe absolument pas de cette province, jusqu'en 2003, lorsqu'un mouvement de libération s'empare de la ville d'El-Fasher. C'était ce qui allait déclencher les massacres qui allaient suivre. RFI, Hassan Diop, le 26 août 2003.
Hassan Diop. Tension dans la région soudanaise du Darfour Nord, une province du nord-ouest du Soudan où sévit le mouvement armé de libération du Soudan, une guérilla apparue récemment dans cette zone. Ce groupe affirme dans un communiqué publié au Caire s'être emparé d'El-Fasher, la capitale du Darfour. Karine Franck.
Aucune rébellion n'y avait été signalée jusqu'à la fin du mois de février, date à laquelle y est apparu un front de libération du Darfour qui accuse le pouvoir central d'ignorer Darfour dans ses programmes de développement, Darfour, victime de la sécheresse. En croire le journal gouvernemental, 32 soldats soudanais et 20 rebelles qui tentaient de prendre l'aéroport d'El-Fachir ont été tués dans les combats de vendredi. L'armée nationale du Soudan assure que la sécurité est rétablie dans la ville.
C'était RFI, la prise d'El-Fachir en avril 2003. J'ai dit en août, c'est en avril 2003. Alors le gouvernement soudanais, on l'a entendu, s'efforçant de minimiser les choses. En fait, je crois qu'il y a eu 200 morts dans l'armée nationale soudanaise. Et ça allait provoquer des massacres, une réaction du gouvernement soudanais, provoquée donc par cette prise d'Al-Fashir, par deux mouvements nationaux de libération nationale qu'il faut peut-être préciser, dont il faut préciser peut-être ce qu'ils sont, Marc Lavergne.
Oui, alors ces deux mouvements sont d'une part le Sudan Liberation Movement, qui est un mouvement qui se dit laïque, qui est dirigé par un jeune avocat.
Mouvement de libération du Soudan, oui.
Mouvement de libération du Soudan, qui ne cherche pas du tout la sécession, ni même un statut d'autonomie ou un fédéralisme, qui vise simplement un peu à l'image de ce qui est demandé à l'époque au Sud-Soudan par le SPLM, c'est-à-dire le mouvement de libération, non pas du Sud-Soudan, mais des peuples du Soudan, l'égalité de tous les citoyens soudanais devant l'accès aux emplois, l'accès aux ressources et l'accès au pouvoir.
Et puis il y en a un autre, le mouvement pour la justice et l'égalité, le JEM.
Mouvement qui a une base ethnique particulière, qui a aussi des dirigeants qui ont fait partie de l'establishment islamiste, de ce régime militaro-islamiste qui s'est installé au pouvoir en juin 1989, qui ont été déçus par l'orientation de ce régime et qui du coup se sont repliés sur leur base ethnique pour lancer une guerre qui vise à renverser le pouvoir central de Khartoum. D'ailleurs, on constate que dans les deux cas, les deux sigles, les deux acronymes de ces mouvements ne font pas référence au Darfour, mais bien à une refonte du système soudanais dans son ensemble. Et de ce point de vue, il se rapproche du SPLM et du combat qui est mené depuis 20 ans par les rebelles du Sud-Soudan.
Alors vous avez, Marc Lavergne, évoqué le Sud-Soudan. Donc c'est un conflit qui est indépendant, mais qui a des liens avec celui qui s'est déroulé au Darfour. Le Sud-Soudan, c'est, comme son nom l'indique, tout à fait à l'extrémité sud du Soudan. C'est une région peuplée majoritairement de chrétiens qui est en guerre, et lui aussi, contre le gouvernement de Khartoum depuis 1983, Marc Lavergne. Quel lien avec Roland Marshall, pardon. Quel lien avec le conflit du Darfour?
Je crois qu'il y en a deux. Le premier, c'est les gens qui essayent de se révolter ailleurs au Soudan voient que le gouvernement soudanais est en train de lâcher, puisqu'il négocie après plus de 20 ans de conflit. Donc il y a cette idée que s'il lâche pour le Sud-Soudan, il peut lâcher ailleurs. Et puis évidemment, deuxième aspect, c'est immédiat. On va chercher au Sud-Soudan l'aide militaire, l'expertise militaire dont on a besoin pour se battre contre Khartoum, ce qui aura un effet important. Je crois que c'est important. Vous avez vu très juste en prenant El-Fashir, parce que El-Fashir était l'ancienne capitale de tout le Darfour. C'était aussi la grande base militaire au Darfour. Le fait qu'elle soit prise signifiait pour Khartoum que ce qui était en jeu n'était pas une rébellion comme le Darfour en a connu précédemment, c'était effectivement une tentative de le renverser, et le gouvernement soudanais réagira de manière extrême face à une menace qu'il pressent extrême.
Et avec des milices appuyées par l'aviation soudanaise, c'était le début d'un massacre très loin des caméras et des micros de la presse internationale. Écoutez ce reportage exceptionnel tiré d'un documentaire d'Arte, les seuls témoignages dont on dispose d'un drame qui a fait 200 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés et qui commençait en juin 2003.
Les Antonov bombardent la ville. La ville de Karnoï est sous les bombes, lâchées par les Antonov. Voilà ce que nous font les Moudjahidines. Regardez les maisons, regardez ce qui se passe. Les Janjaouides sont venus des montagnes et ont encerclé le village. Ils nous ont fait sortir. Des femmes ont été violées, des hommes battus à mort, pendus. Ils nous ont dit de ne jamais revenir. C'est la plus grande crise humanitaire du monde. J'étais présent au Rwanda au moment du génocide. J'ai vu beaucoup de crises dans le monde, mais je suis bouleversé par ce qui se passe au Darfour. C'est un nettoyage ethnique et je ne comprends pas pourquoi le monde ne fait rien.
Alors l'homme que l'on vient d'entendre était l'envoyé spécial de l'ONU au Soudan en 2003, Mukesh Kapila, qui comparait ce qu'il a vu au Darfour en 2003 avec ce qu'il avait vu également quand il était allé au Rwanda 10 ans plus tôt, parlant de nettoyage ethnique. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez connu, je crois, Mukesh Kapila, Marc Laverne, Roland Marchal, qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-on parler de nettoyage ethnique et que signifiait l'emploi de ces milices? Pourquoi est-ce que le gouvernement de Khartoum, pour réprimer l'insurrection au Darfour, a fait appel à des milices et non pas à l'armée nationale soudanaise?
Encore une fois, il faut bien réinscrire ça dans l'histoire de ce régime et dans l'histoire même de l'État soudanais. On a toujours au Darfour, y compris dans la période coloniale, rétabli l'ordre en mobilisant des milices contre des populations. L'État soudanais ou le régime, en tous les cas après juin 89, a mené la guerre au Sud-Soudan en utilisant exactement cette technique de contre-insurrection. Il ne fait qu'appliquer au Darfour une technique qu'il connaît bien, qui a fonctionné d'ailleurs relativement bien au Sud-Soudan. De plus, l'armée soudanaise est elle-même composée en partie d'officiers ou de sous-officiers qui sont originaires du Darfour. Et évidemment, en évitant de l'impliquer au premier rang, on prévient des troubles militaires qui pourraient être dommageables au régime. La violence, c'est surtout ça qui est étonnant, c'est l'extrême violence à laquelle on assiste dans le deuxième semestre 2003. Disons, n'a peut-être pas d'explication rationnelle, c'est peut-être un phénomène, encore une fois, je crois, le régime s'est senti menacé, il a réagi de façon extrême parce qu'il était, il n'a jamais été très modéré sur ces questions-là, mais je crois qu'il y a eu aussi une espèce d'emballement régional à l'intérieur du Darfour qui fait que cette période-là, jusqu'à aujourd'hui, doit être considérée comme la pire en termes, effectivement, de violence, de crimes de masse, quels que soient les discours auxquels qu'on peut entendre aujourd'hui et, disons, hier sur la situation au Darfour.
Les Janjaweed, qui voulaient dire « démons armés à cheval », en fait, on leur laissait la bride sur le cou, ils se payaient sur la bête, ils faisaient ce qu'ils voulaient, impunément.
Impunément, mais encore une fois, il faut savoir que cette situation, elle a prévalu à d'autres moments. Dans les années 80, lorsque, par exemple, les Français, les Américains, les Égyptiens et les Soudanais aident Hissène Habré à reprendre le pouvoir à N'Djamena, on rentre à cause du régime d'Abré dans un cycle de migration forcée du Tchad vers le Soudan. Et à partir de ce moment-là, on a toute une série de violences qui font que le conflit au Darfour aujourd'hui est aussi une conséquence de la crise tchadienne depuis les années 80.
Est-ce qu'il ne s'agit pas, Marc Laverne, de terroriser la population, au fond, de la pousser à émigrer vers l'extérieur, vers le Tchad, etc. Il y a la volonté de terroriser les gens et pas seulement de les éliminer.
Alors jusqu'à aujourd'hui, la question est posée. C'est-à-dire que le gouvernement soudanais ne s'est pas exprimé dans ce sens, n'a jamais déclaré qu'il s'agissait de faire un nettoyage ethnique. Dans la pratique, c'est ce qui s'est opéré. Mais est-ce que ce sont sur le terrain ces milices, ces Janjaweed qui ont été lâchés, comme vous avez dit, auxquels on a donné carte blanche, parce que l'armée soudanaise n'était pas présente? Et d'autre part, c'est une guerre qui ne coûte pas cher, effectivement, de lâcher ces milices en leur disant « payez-vous sur la bête ». Maintenant, ces milices ont leurs propres objectifs, qui sont peut-être de gagner des terroirs, des villages auxquels elle n'avait pas accès jusqu'à présent. Et il est possible que dans les cercles dirigeants soudanais, certains se soient dit « profitons de l'occasion, effectivement, pour modifier la population, pour installer au centre du Darfour des gens qui nous sont loyaux, au détriment de ceux qui ont tendance à se révolter et à contester notre suprématie ».
Et au prix d'un massacre épouvantable, 200 000 morts, un massacre ignoré, c'est ça qui est scandaleux, ce qui semble scandaleux ou qui l'est, par la communauté internationale, jusqu'à une intervention du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, à Genève, à l'occasion de la dixième commémoration des massacres au Rwanda. C'était le 7 avril 2004.
Let me say here and now that I share the grave concern.
Je partage la grande inquiétude liée aux abus des droits de l'homme et à la crise humanitaire qui sévit au Darfour. La communauté internationale doit se préparer à agir de manière appropriée, ce qui peut inclure une action militaire. La violence doit cesser. Les milices Janjaweed doivent être désarmées et démobilisées. L'accord de cessez-le-feu doit être respecté par chacune des parties.
Il a fallu attendre, ce discours de Kofi Annan, bien après, des mois après le début de ces massacres, pour que la communauté internationale prenne conscience de ce qui se passait. Comment expliquer cette indifférence? Est-ce que c'est de l'ignorance, Roland Marchal?
Non, de l'ignorance, non. simplement une priorité. On est depuis juin 2002 dans des négociations qui se déroulent au Kenya pour régler le problème du Sud-Soudan. Cette guerre donc, qui a commencé en 1983, et la communauté internationale, en tous les cas les États-Unis, les Britanniques et autres, pensent que ce qui se passe au Darfour n'est quand même pas si grave que ça. Mieux vaut finaliser les accords sur le Sud-Soudan, parce que c'est la fin d'une très longue guerre qui a été également extrêmement sanglante. Et puis ensuite, on s'occupera du Darfour. C'est une erreur d'analyse, et effectivement, dont on va payer le coup après, et qui reflète aussi le statut marginal du conflit au Darfour par rapport à la vie politique soudanaise. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, le sentiment profond d'observateurs comme nous est que la communauté internationale à la fois parle beaucoup sur le Darfour, mais ne considère pas ce conflit comme aussi vital qu'il l'a considéré le conflit au Sud-Soudan.
Et puis elle est empêtrée dans des contradictions, dans des intérêts contradictoires. Les États-Unis, par exemple, sont un pays qui a besoin du gouvernement soudanais dans la lutte qu'il mène à l'époque contre le terrorisme. Les États-Unis, d'ailleurs, qui, brusquement, sous la pression de l'opinion publique, parle par la voix de son secrétaire d'État, Colin Powell, de génocide. Est-ce qu'on peut parler de génocide ou, comme d'autres l'ont dit, de crime de guerre, Marc Lavergne?
Tout dépend de la définition qu'on donne du terme génocide. Je crois que le gouvernement américain a fait marche arrière assez rapidement. Il avait employé ce terme sous la pression du Congrès, mais ça emporte des conséquences juridiques, une obligation d'intervenir pour la communauté internationale. Alors, sinon, factuellement, je pense qu'il n'y a pas de génocide dans l'esprit du gouvernement soudanais. Il ne s'agit pas d'un racisme, si vous voulez, à l'égard des populations du Darfour. Les gens du Darfour qui habitent dans la capitale ou qui sont dans l'appareil d'État ne sont pas en butte à des discriminations au point de chercher à les massacrer. Donc il y a vraiment quelque chose qui est quand même très très grave, qui sont effectivement ces massacres de masse. En tant que de besoin, je dirais, parce que les gens sont au mauvais endroit au mauvais moment et parce qu'ils gênent tout simplement une politique nationale d'éradication de toute opposition.
Autre attitude importante, parce que c'est aussi un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU qui est le seul habilité ou à pouvoir intervenir, c'est la Chine. La Chine qui a des intérêts au Soudan puisqu'elle l'achète au Soudan du pétrole et elle lui vend des armes. Roland Marchal.
Oui, alors la Chine est effectivement très présente au Soudan. Elle a un peu bénéficié du fait que dans les années 90, ce régime était mal vu. Elle est très présente dans l'industrie pétrolière. Depuis, elle a évidemment investi ailleurs. Mais je crois là aussi, et on le verra dans la suite, la Chine va évoluer. Elle vote ou elle s'abstient au moment du vote de la résolution 1593 de la saisine de la Cour pénale internationale, justement pour décider et étudier les cas d'éventuels actes de génocide. Et plus tard, en 2007, elle va jouer un rôle essentiel pour l'acceptation par Khartoum de la force hybride Union africaine Nations Unies, qui est censée protéger les camps de déplacés au Darfour et d'être, disons, le volant peacekeeping, le maintien de la paix d'une solution politique.
Alors, une solution, elle semble pouvoir se dégager en mai 2006. Il y a, après plusieurs cessez-le-feu, il y a un accord de paix signé à Abuja et en réalité qui n'engage qu'une partie des insurgés du Darfour, puisqu'il y a certains mouvements qui refusent de le signer, donc tout est bloqué. On accepte la présence d'une petite force de paix africaine dans un premier temps, l'AMIS, qui est envoyé par l'Union africaine, est chargé de la protection des camps de réfugiés comme celui du Koutoun. France Inter, Ivisar, le 14 novembre 2006.
C'est un camp où chacun a bricolé sa cabane, mur de terre, toit recouvert de bâches, enclos protégés par des clôtures en branchage. 24 000 personnes vivent ici depuis près de 3 ans, dans la poussière parmi les ânes et les chèvres. Sur le marché, il y a pourtant de la nourriture, mais ce qui manque, c'est la sécurité, dit un responsable. Le problème principal ici, c'est la sécurité. Nous sommes arrivés là il y a longtemps. On a beaucoup souffert des problèmes de sécurité, y compris des cas d'exécution, d'humiliation, de bagarre. Pourtant, il y a beaucoup de marmés dans le camp. La police soudanaise, en tenue de combat, l'AMIS, la force internationale, sous-équipée, mal financée, et les Djadjaouis qui ne sont jamais loin et sèment la terreur. Christophe Chervinsky travaille au programme alimentaire mondial.
C'est une sorte de guerre en ce moment. Quand il y a des combats, etc., on ne peut pas arriver auprès de la population. Avec les vivres, etc. Alors il y a des gens, pour des mois, ils n'ont rien reçu. C'est évident qu'on a besoin de protection sur le terrain. Le combat, ça change tous les jours. Un jour, c'est ici, dans le nord, ou puis c'est dans l'ouest. Et il y a de moins en moins des ONG. qui peuvent soutenir la population.
Et c'était en 2006, c'est-à-dire 3 ans après le début de ces massacres de juin 2003 au Darfour. Et aujourd'hui encore, on a l'impression que la situation n'a pratiquement pas changé, Roland Marshall.
Oui, la situation n'a pas changé parce que, disons, la communauté internationale n'existe pas sur le Darfour. Il y a différents intérêts vis-à-vis du régime à Khartoum. Il y a différentes interprétations du conflit au Darfour même qui fait que la communauté internationale avance en ordre dispersé, fait beaucoup de communication. Ça peut rappeler quelque chose aux Français.
Mais finalement, on
parle beaucoup, on remue beaucoup d'air, mais finalement, on a une médiation, on a une équipe de médiation qui est reconnue par tous les observateurs comme l'une des plus lamentables qui existent à l'heure actuelle, alors qu'on a une des crises les plus importante au
vous
monde.
Vous parlez quoi, de la France ou de ou des
non, non, je parle de la communauté internationale qui a nommé une médiation Nations Unies, Union africaine, qui se révèle incapable de faire le travail, qui travaille dans des... qui n'est incapable de penser les problèmes comme il faut le faire. Tout le monde le sait, mais évidemment, on continue. Et la seule chose qu'on aura réussi à faire, c'est faire approuver une force hybride, donc 26 000 hommes qui devraient venir au Darfour. 26 000 hommes, c'est beaucoup et c'est rien pour un territoire comme de l'étendue de la France. Et on voit aujourd'hui encore moins qu'hier, c'est ce qui c'est une solution politique. Donc je crois que si solution il doit y avoir au Darfour, c'est d'abord par une communauté internationale qui se comporterait de façon un peu plus responsable et mettrait ses actes en adéquation avec ses paroles.
Parce qu'on a l'impression, au fond, quand on voit ces camps qui existent encore, qui sont devenus importants, les gens ne peuvent plus revenir parce que souvent leurs biens ont été spoliés quand ils ont quitté leur région. Au fond, que la communauté internationale vient là pour panser des plaies, mais sans avoir pu prévenir, au fond, ce qui s'est produit. C'est un peu comme le Rwanda, Marc Lavergne.
Oui, tout à fait. Non seulement on n'a pas prévenu, bien entendu, ce qui peut être explicable, mais on ne s'est pas donné les moyens de faire les pressions nécessaires et suffisantes sur le gouvernement de Khartoum pour faire cesser ces atrocités et finalement pour amener le gouvernement à faire des concessions qui permettent à la population de rentrer chez elle et d'envisager un avenir meilleur. Alors il ne faut pas oublier, je crois, que cette crise du Darfour s'inscrit dans un ensemble national soudanais qui est marqué par une grande prospérité économique, par un véritable boom. Le Soudan est un eldorado pétrolier avec un taux de croissance de 12% par an. Donc la crise du Darfour vue de Khartoum, elle est un petit peu secondaire par rapport à cet essor qui attire les capitaux étrangers et qui amène les puissances étrangères à considérer avec une certaine indulgence ce qui se passe au Darfour.
Dans un article en novembre 2007 dans Politique Internationale, vous parlez d'un Munich tropical, le Darfour.
Je crois en effet, alors c'est peut-être un peu rapide comme comparaison, mais je crois que ça n'est pas du tout indifférent ce qui se passe au Darfour, au-delà de l'aspect purement humanitaire de la crise. Il y a un danger pour la communauté internationale, avec toute sa puissance, à montrer son incapacité à déployer un bras armé ou un bras diplomatique pour faire cesser ce genre d'atrocité dans une région qui paraît aujourd'hui mineure, mais qui peut devenir beaucoup plus importante demain.
Roland Marshall et Marc Lavergne, merci. Je signale que Roland Marshall est l'auteur d'un livre publié en 2003 aux éditions Cartala, « Guerre et société, état de violence après la guerre froide ». Et vous, Marc Lavergne, d'une histoire du Soudan qui sera peut-être rééditée puisqu'elle s'arrête en 89, c'est-à-dire avant ces événements dont on vient de parler. À lire aussi « Darfour, un génocide ambigu » de Gérard Prunier, publié aux éditions de la Table Ronde. Et enfin « Darfour » de Stéphanie Rivoal, un carnet de voyage illustré de photos publié aux éditions du Cherche Midi. Vous avez pu entendre des extraits d'un excellent documentaire récemment diffusé sur Arte, « Darfour, autopsie d'une tragédie » de Christophe Ayad et Vincent de Cointet. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Serge Viguier, Jean-Noël Vélan, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Claire Destacant, Sophie Gillery, Françoise Bourgault et Françoise de Lignon et à notre réalisatrice Séverine Cassard. Demain, nous vous proposons la rediffusion d'une émission de 2000 ans d'histoire sur l'assassinat de Gandhi à l'occasion du 60e anniversaire de sa mort. C'était le 30 janvier 1948.